Aubert, êtes-vous là? Bon, visiblement, on a un petit souci. Est-ce que Filiberto est avec nous à Malabo, en Guinée équatoriale?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour Filiberto. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin en découvrant les résultats de l'élection présidentielle qui ne sont pas encore définitifs, je tiens à le préciser?
Oui, bon, mais il reste juste 3 voix.
Votre pourcent, mon cher, depuis longtemps, au DS 150 et 14.
Alors, attendez, que se passe-t-il là? Alors attendez, Filiberto, excusez-moi, répétez parce que on a entendu une messagerie vocale qui est passée à l'antenne pendant que vous parliez. Donc vous disiez, parlez un peu plus fort.
Je disais que c'est presque fait, parce qu'il lui manque juste 3 voix.
3 grands électeurs, oui.
Oui, oui, 3 grands électeurs, je vais dire, oui, c'est ça. Donc vraiment, je me suis réveillé ce matin avec une gueule de bois, très dessus, comme le frère mauritanien là, vraiment, parce qu'on pensait, que Kamala Harris pouvait gagner, en quelque sorte un peu venger une femme, Hillary Clinton, bon, entre guillemets, hein, on le pensait vraiment. Vu la campagne et les soutiens vraiment qu'elle a eu au dernier moment,
ouais,
on le pensait vraiment.
Ouais. Et
vu le personnage qui le fait.
Filiberto, que craignez-vous désormais?
Bon, ce qu'on craint, c'est que bon, il applique sa rhétorique, hein, le repli sur soi, il ferme les frontières, il remet l'Amérique au plus grande, c'est bien beau, mais c'est vraiment le repli sur soi.
Ouais. Mais c'est pour ça que les Américains ont voté pour lui. D'abord l'Amérique, c'est bien ça, Jérôme Vialagaud-Froy.
Oui, America first, et c'est, on peut même dire les Américains d'abord, hein, puisque y a, ce qui s'est mis vraiment en place depuis 2016, c'est les Américains contre les immigrés. Alors, et on parle des immigrés illégaux beaucoup, des sans-papiers plus exactement, mais en réalité, c'est quand même un discours très ambigu sur l'immigration en général, même légale. Hein. Ce que Donald Trump a quand même promis, c'est aussi de diminuer l'immigration légale.
Alors justement, les réfugiés. On a reçu beaucoup de questions sur l'immigration, sujet qui intéresse visiblement nos auditeurs. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Et merci de vos encouragements. Quelle est votre question?
Suite à la victoire de Trump, quelles conséquences pour les immigrés qui ont franchi la frontière américaine illégalement?
Alors, que prévoit Donald Trump, Jérôme Vialagaud-Froy?
Alors, ce que Donald Trump a en tout cas promis, c'est de les arrêter et de les expulser. Donc, on parle ici de minimum 12 millions de personnes, s'il fait vraiment ce qu'il dit.
Il lui a promis la plus grosse opération d'expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis.
Exactement. Alors, ça va être compliqué parce qu'il peut avoir aussi des blocages au niveau des États, au niveau de ce qu'on appelle les villes sanctuaires, puisque certaines villes se sont déclarées comme étant des sanctuaires pour les gens qui seraient éventuellement sans papier, etc. Donc, et puis, l'autre problème qu'il va y avoir, c'est qu'il faut identifier ces immigrés illégaux. Et donc, il va falloir demander les papiers d'identité aux gens, aux hispaniques en général. Enfin, voilà, ça va être très compliqué à mettre en place. Mais il va de toute façon faire au moins un certain nombre de mesures et tenter le plus possible d'expulser ces immigrés.
Alors,
ça va.
Nous parlons, Jérôme Vialagaud-Froy, d'expulsion. Mais dans la bouche de Donald Trump, lui parle d'exportation.
De déportation.
De déportation, tant pour moi, je cherchais le mot.
Alors, sauf qu'en anglais, le terme n'a pas... J'utilise justement exprès le terme expulsion parce qu'il est toujours traduit par déportation, mais déportation en français a une autre connotation qu'il n'a en anglais. Et en anglais, il n'a pas cette connotation.
Ah d'accord, c'est pour ça que je me permettais de le souligner. Continuons à parler d'immigration encore avec un auditeur. Amat, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons.
Monsieur Juan, la présidentielle aux États-Unis s'est déjà scellée par la victoire de Trump qui a fait son retour au pouvoir.
Oui.
Ceci étant une question. La victoire de Trump signifie-t-elle que le chantier de la construction du mur à la frontière mexicaine pourra reprendre?
Alors, Jérôme Vialagaud-Froy, quel avenir pour ce mur qui était, je le rappelle, la promesse phare de la première campagne électorale de Donald Trump?
Oui, et qui n'a pas du tout complété, puisque en réalité, il a reconstruit une partie du mur qui n'était pas construite de manière correcte. Il n'a pas beaucoup ajouté de mur par rapport aux plus de 1000 km qu'il avait promis de faire. On va voir effectivement s'il arrive à avoir les fonds. Mais il a le Congrès, a priori, avec des majorités. On va voir, ça va dépendre du résultat à la Chambre, notamment.
Oui. En tout cas, le Sénat est désormais contrôlé par les Républicains.
Tout à fait.
La Chambre de représentants, je le rappelle, c'est l'Assemblée nationale.
C'est ça,
tous les députés remettaient en jeu leur mandat, bien ça.
Tous les deux ans.
Et pour l'instant, la tendance est plutôt favorable.
Plutôt favorable aux Républicains, effectivement.
Aux Républicains. Ça veut dire que Donald Trump, si sa victoire se confirme, s'il obtient ses trois fameux derniers grands électeurs, aura une marge de manœuvre incroyable pour mener à bien sa politique, et notamment sa politique migratoire.
Oui, tout à fait. Il aura la bourse, puisque c'est quand même le Congrès qui est chargé du budget. Et donc, il va falloir voir aussi si, à l'intérieur du Parti républicain, tout le monde suit. Parce qu'il y a eu, on a eu, en tout cas, pour le Congrès précédent, la Chambre précédente, une division à l'intérieur du Parti républicain entre les purs Trumpistes et les moins Trumpistes. Enfin, là, on va voir ce que ça donne. Mais a priori, il pourrait faire beaucoup plus, y compris la construction du mur, comme il l'avait promis en 2016.
33 9 693 693 70, émission spéciale, pour comprendre les enjeux de l'élection présidentielle. Vous vous réveillez, vous allumez la radio, Donald Trump n'a pas encore gagné, je tiens à le préciser, mais les jeux sont quasiment faits, puisqu'il lui manque trois grands électeurs pour franchir le seuil fatidique des 270 grands électeurs nécessaires pour rejoindre le bureau ovale à la Maison Blanche. On repasse au standard, il y a beaucoup de questions. Fidel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les Africains résidents aux États-Unis.
Ils sont nombreux à nous écouter, quelques-uns à nous envoyer des messages sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Vous, en tout cas, vous êtes en Côte d'Ivoire, nous écoutons votre question.
Ma question est de savoir quelles seront les charges judiciaires
le réseau téléphone est très très mauvais. Que vont devenir les affaires judiciaires de Trump s'il est effectivement réélu, c'est ça?
Voilà.
Jérôme Vialagaud-Froy.
Alors, pour ce qui est des affaires au niveau fédéral...
Il est impliqué dans 5 affaires, il me semble. Hein. Voilà, c'est ça, 5 affaires.
Alors, pour une bonne partie d'entre elles, c'est-à-dire 3 en réalité, 4 même, il va pouvoir soit s'autogracier, soit demander à la...
Il peut s'autogracier.
Ah, bien sûr.
C'est prévu dans la Constitution.
Ah, ben, il n'y a pas de limite. Rien n'est dit contre ça, donc c'est possible. Il peut s'autogracier. Et puis, il peut aussi mettre fin, tout simplement... À ses poursuites en demandant au département de la justice d'arrêter les enquêtes, d'arrêter la procédure. Donc là-dessus,
donc, il avait tout intérêt à remporter l'élection présidentielle.
Ah, mais pour lui, c'est extrêmement... C'est une très, très, très bonne nouvelle. Alors, le seul bémol, c'est par exemple, il a une affaire en Géorgie. Et là, ça dépend de l'État de Géorgie. Là, il n'a aucune prise... sur ce qui se passe dans l'État de Géorgie et ce qui va être décidé.
En Géorgie, il est poursuivi pour avoir essayé d'inverser les résultats de l'élection.
Exactement. Et c'est un des procès les plus importants, en tout cas en termes symboliques. Mm-hmm. Donc on va voir jusqu'où ça va aller, mais c'est évident que cette élection met à mal les accusations et risque de donner encore l'impression qu'on doit lui en vouloir et qu'on est après lui, on essaie de le faire. C'est une chasse aux sorcières,
en tout cas, je retiens qu'il peut s'auto-gracier.
Tout à fait.
C'est prévu dans la Constitution.
Alors pour ça, il faut qu'il soit condamné. Donc s'il était condamné, mais je pense qu'il ne sera même pas condamné, c'est-à-dire qu'il arrêtera, il mettra la pression sur le département de la justice pour faire arrêter les procès.
Je regarde le site de l'agence AP, qui est le site, on va dire, qui le plus fiable dans les tendances. On est toujours à 267 grands électeurs depuis plus d'une heure. Que se passe-t-il, Jérôme Vialagaud-Froy? Pourquoi le compteur n'avance plus depuis 60 minutes?
Alors, je n'ai pas regardé les dernières dans les états, mais c'est simplement une question de recomptage, de comptage dans certains états, et notamment le fait qu'il y a une partie de votes qui sont des votes par correspondance.
Qu'il faut dépouiller.
Alors, pour certains états, il y a bon, par exemple, dans le Michigan, je crois que c'est les votes sont
clos,
me semble-t-il, à revérifier.
Oui. Mais c'est vrai que pas... vous ne pouvez pas être en train de répondre aux auditeurs, effectivement.
C'est un petit peu difficile, je n'ai pas pu regarder les dernières.
Je vous prends un peu au dépourvu.
Voilà, mais ce qui se passe en général, c'est que vous avez des États qui font du dépouillement un petit peu à l'avance, mm-hmm. Pas forcément pour avoir le résultat, mais qui vont manipuler les enveloppes pour mettre tout dans l'ordinateur pour qu'il y ait les lectures après optiques. Et dans certains États, ce n'est pas fait à l'avance, et donc il faut le temps que ça soit fait. Et quand vous avez beaucoup de
le compteur
de votes
peut rester figé très longtemps comme ça.
Bah, il peut rester figé plusieurs jours. C'est ce qui s'était passé en 2020. Hein.
Effectivement,
ça avait duré quelques jours,
quatre jours pour définitivement le nom du vainqueur. Allez, on repasse au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Jean Bernard.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu et merci de nous écouter à Yaoundé au Cameroun.
Mm-hmm. Pourquoi le sujet de l'avortement a-t-il pris une place aussi importante dans la campagne électorale ?
Jérôme Viala-Godefroy.
Alors, parce que c'est une question importante pour la moitié de la population, en tout cas une bonne partie de cette moitié, c'est-à-dire pour les femmes, et notamment parce que c'est devenu quelque chose de concret et qu'il y a eu des conséquences sur la santé. Parce que, par exemple, pour beaucoup de médecins, dans les États où l'avortement a été interdit, la question est de jusqu'où ils peuvent aller pour essayer de sauver une mère, par exemple, qui est en danger dans sa grossesse, voilà. Et donc certains hésitent et attendent jusqu'au dernier moment. Et il y a eu des incidents et des mères qui sont mortes parce que on n'a pas voulu terminer le fœtus. Le fœtus qui mettait en danger éventuellement la mère parce qu'on était après accusé de meurtre.
Et on en a beaucoup parlé. Bon, il y a eu cette décision de la Cour suprême il y a 2 ans maintenant. Mais je parle là sous votre contrôle. Il y avait, en plus de l'élection présidentielle, en plus du vote des sénateurs et de la Chambre des représentants, il y avait un certain nombre de référendums, dont un qui portait sur l'avortement.
Oui, tout à fait. Dans plusieurs États, d'ailleurs. Ouais. Alors, en Floride, ça n'est pas passé parce qu'il fallait plus de 60% des votes pour terminer cette fin du droit à l'avortement ou pour rétablir le droit à l'avortement. Mais dans la plupart des États où il fallait une majorité, le droit à l'avortement est revenu au niveau des États.
En deux mots, quelle était la position de Donald Trump ? Quelle est sa position ?
Alors, Donald Trump a une position qui est de dire maintenant, c'est aux États de le faire, ce n'est plus une question au niveau fédéral. Moi, j'ai mis fin à quelque chose où il y avait plein de gens qui étaient d'accord. Alors, voilà. Le problème, c'est que pour beaucoup d'Américains, c'est devenu concret une fois vraiment... Ça a pris du sens une fois que ça a été mis en place. Et il y a des situations qui sont quand même assez difficiles pour un bon nombre de femmes.
Autre question standard, et ils sont nombreux les auditeurs à s'interroger sur le positionnement de Donald Trump sur des dossiers de politique étrangère. On va commencer avec Alpha. Bonjour.
Bonjour Juan, salut l'ensemble de vos travailleurs.
Merci.
Y compris notre invité.
Jérôme Viala-Godefroy qui vous écoute. Allez-y, quelle est votre question ?
Ma question est de savoir quelle position Donald Trump pourrait-il prendre dans la guerre en Ukraine en cas de victoire.
J'imagine que les Ukrainiens suivent de très près ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Trump promet de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures.
Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, on va voir comment il va faire ça. Il a même parlé de le faire avant de devenir président, que ce sera une des premières choses qu'il fera. Alors, il va certainement donner des territoires, on peut l'imaginer, accepter que certains territoires aillent à la Russie, mais ce n'est pas pour ça que l'Ukraine, les Ukrainiens...
Que lui souhaite que certains territoires aillent à la Russie, ça le regarde, mais il y a les Ukrainiens.
Exactement.
Il y a le président Zelensky, il y a le peuple ukrainien.
Voilà, mais il ne fournira sans doute plus d'armes, c'est le gros risque. Qu'ils ne fournissent plus d'armes, que Elon Musk ne fournisse plus non plus ses satellites l'Ukraine ne dépende plus que de l'Europe. Donc c'est une bonne manière de le faire, c'est de dire on ne vous fournit plus d'armes. Alors il va falloir
dans quelle optique ? Dans l'optique de dire l'Amérique a déjà trop payé pour l'Ukraine ?
C'est ça.
Ou dans l'optique de se dire Vladimir Poutine, et on connaît ses relations avec Donald Trump, eh bien, je fais en sorte qu'il remporte cette guerre.
Alors, je pense qu'il ne mettra pas ça dans ces termes de « je fais en sorte qu'il remporte cette guerre ». Il se présentera comme un homme de paix, qui a une très bonne relation avec, effectivement, Vladimir Poutine. Et donc, ça va vraiment avoir un impact très fort sur les Ukrainiens, qui dépendront, comme je le disais, éventuellement de l'aide européenne. Mais en tout cas, il y aura une forme de résistance très certainement en Ukraine, parce que les Ukrainiens, quoi qu'il se passe, n'accepteront très certainement pas de rendre leur... En tout cas, que le reste de leur territoire aille à la Russie. Donc on va voir ce qui va se passer exactement. Il faut aussi se méfier de ce que dit Donald Trump. Hein. Mm-hmm. Il dit des choses, il ne fait pas toujours ce qu'il dit s'il n'y voit pas son intérêt. Et le parti républicain, jusqu'à récemment, était divisé sur la question.
Voilà, je regardais pendant que vous nous parliez les réactions des différents dirigeants à travers le monde. Je vous ai cité tout à l'heure celle du Premier ministre britannique, celle du président Macron, de Benjamin Netanyahou. Le président Zelensky a réagi. Il espère que Trump aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Fin de citation. Allez, on repasse au standard. Bonjour Hubert.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous et bonne nuit là-bas aux États-Unis d'Amérique.
On vous écoute.
Bien, merci d'avoir entretenu la ligne avec Abéchir. Le retour de Trump à la Maison Blanche pourrait-il avoir des conséquences sur l'OTAN?
Alors voilà, une question qui est revenue 2-3 fois. Hein. Donc visiblement, cela intéresse les auditeurs sur l'OTAN. On sait que Kamala Harris et Donald Trump avaient deux visions complètement opposées. Que compte faire Donald Trump? D'autant qu'on a le souvenir lors de son premier mandat qu'il avait un peu secoué les autres pays membres de l'Alliance Atlantique.
Oui, alors là aussi, il y avait des accords, y compris à l'intérieur du Parti Républicain. Il y a une loi qui a été votée en 2023 qui fait que ça limite ce que Trump peut faire tout seul par rapport à l'OTAN. Mais sans se retirer nécessairement de l'OTAN, il peut...
Enfin, il l'avait dit à l'époque.
Il l'avait dit.
Si vous ne payez pas
alors,
plus...
Voilà, c'est ça. Voilà, ben alors, ce qu'il peut faire, effectivement, c'est toujours cette idée avec Donald Trump de cette transactionnalité, d'être en transaction tout le temps et que ça bénéficie plus à lui et donc à l'Amérique plutôt qu'aux alliés. Et l'idée, c'est qu'il est dans cette obsession que l'Amérique se fait avoir par les autres, tout le temps. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'exiger qu'il y ait que les alliés payent plus, et il va menacer de définancer, en tout cas de ne plus financer de son côté l'OTAN, ce qui ferait finalement que l'OTAN serait dépourvu de sa force et de sa puissance.
En tout cas, lundi, donc la veille du scrutin présidentiel aux États-Unis, le secrétaire général de l'OTAN, lors d'une conférence de presse, a quand même minimisé les effets d'une éventuelle victoire de Donald Trump. On suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. Il nous reste 2 minutes, rapidement, une dernière question. Bonjour Tierno.
Jérôme.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bonjour.
Merci, comme l'OTAN nous a pris, je vais aller droit au but.
Oui.
Ma question est de savoir, avec l'élection de Donald Trump, 47e président des États-Unis, faut-il s'attendre à un changement de politique au Moyen-Orient?
Jérôme Bialagaud-Froy.
Alors oui, il a quand même une relation très compliquée avec Netanyahou, mais ce qui est très très important chez Donald Trump, c'est sa position très anti-iranienne, par exemple. Les accords d'Abraham qui avaient favorisé notamment l'Arabie Saoudite, etc.
Et le Maroc.
Mais il faut voir aussi que la cause palestinienne, il s'en fiche totalement et il va encore là se présenter comme étant un homme de paix en demandant sans doute à Israël d'arrêter les bombardements, mais on va voir ce qu'il va y avoir derrière. Et ça risque d'être aussi, à long terme, un vrai problème pour les Palestiniens.
Ouais, il y a cette formule qui n'est pas de moi, mais qui est revenue souvent ces derniers jours. Kamala Harris défend Israël, Donald Trump, lui, soutient Benjamin Netanyahou.
C'est exactement ça. Sachant quand même qu'il a une relation très compliquée avec Netanyahou.
On suivra ça. Merci infiniment, Jérôme Bialagaud-Froy, d'avoir pris une bonne heure pour être en direct et dialoguer avec les auditeurs de RFI. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à votre dernier ouvrage, « Les mots de Trump » aux aux éditions Dalloz. Merci d'avoir été avec nous.
Banque Atlantique avec Club Elite, son service de fidélité et de conciergerie, disponible 7 jours sur 7, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, de quoi parlez-vous ?
C'est Movember, hein, c'est le mois dédié au dépistage et à la sensibilisation des cancers masculins, cancer de la prostate, cancer des testicules, prévention, prise en charge. On va parler de tout ça pour mieux aussi identifier les patients à risque, notamment sur le plan génétique. Quel suivi, quels examens et dans certains cas, quels symptômes ? Vos questions et nos invités en direct.
Juste après